Je m'appelle Evaluna, j'ai 22 ans et cette année j'ai traversé le Canada en van, en solo. J'ai conduit 11 500 km d'un océan à l'autre.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Evaluna nous raconte le Canada. Avec elle, on a parlé de van life, de gaspillage alimentaire et de slackline.
J'ai bourlingué à travers le monde. Alors, mon voyage, il a commencé à Vancouver. À la base, en fait, je devais partir avec un garçon que j'avais rencontré 2 ans avant au Costa Rica. Et on était toujours restés en contact. Et je sais pas. Un moment, on s'est mis à se reparler beaucoup, beaucoup, beaucoup. On s'appelait genre tous les jours. Et on était persuadés qu'on allait vivre cette histoire d'amour, de folie, se retrouver 2 ans après, tout ça. Et lui, il est Canadien, il habite à Vancouver. Et en fait, on a acheté un van ensemble et on a décidé de parcourir le Canada avant de s'être vus. Spoiler alert, c'était pas une bonne idée. Et en fait, il est venu me voir à Paris pendant 15 jours. Et vraiment, mais ça a pas matché du tout. On se supportait pas, c'était une catastrophe. Mais le problème, c'est que j'avais du coup un van dans lequel j'avais dépensé genre 2000 balles et j'avais mes billets d'avion pour le Canada. Et je me suis dit, bon, bah, je vais quand même y aller et on verra. On était restés en bon terme, donc j'arrive à Vancouver et il me dit qu'il ne viendra pas avec moi. Et donc je me retrouve toute seule. Franchement, il n'y avait pas, d'embrouille, on était juste potes et il avait juste pas envie de partir, partir en voyage avec moi. Je devais passer que quelques jours à Vancouver et après je devais partir. Mais au final, on s'est rendu compte qu'on était des super bons potes. Et du coup, je suis restée en vacances chez lui. En plus, je me suis trouvée une amoureuse là-bas. Donc, ce qui m'a pas aidé à partir. Et vraiment, Vancouver, c'était la ville un peu de rêve au bout du monde. Il y a vraiment rien autour de Vancouver. Il y a que cette ville. C'est au bord du Pacifique. Il y a des montagnes. Enfin, c'est magnifique. Il y a des surfeurs. Il y a des gens qui font de l'escalade. 2 fois, je suis partie en week-end, une fois sur Vancouver Island, où il y a un petit village de surfeurs, vraiment, au bout d'une route où il n'y a rien pendant 5 heures. Un petit village qui s'appelle Tofino, qui est juste le paradis, on dirait Hawaï, mais en mode canadien. Donc il y a des sapins et tout, mais on dirait Hawaï. J'ai aussi passé quelques jours sur la Sunshine Coast, toute seule dans mon van. Enfin voilà, du coup, je suis restée 3 semaines... dans cette ville, je me suis fait des potes, j'avais vraiment pas envie de partir, je me disais, peut-être que je pourrais passer 2 mois ici, tu vois, je me voyais bien rester vraiment super longtemps, et puis j'avais le van qui m'attendait dans l'allée de garage de mon pote, et je me disais, bon, quand même, j'ai payé pour ce truc, je vais pas le revendre tout de suite. Et du coup, au bout de 3 semaines, j'ai décidé de m'arracher de ma zone de confort, de partir. Je me suis dit, vas-y, là, c'est le moment, il faut y aller. Et du coup, j'ai pris le van et je suis partie. Et la première nuit, c'était une catastrophe. J'avais mal évalué les distances, en fait, parce qu'au Canada, entre une ville et une autre sur une carte, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'espace. Mais en fait, le Canada, c'est genre 3 fois plus grand que l'Europe. Du coup, je me suis dit, tranquille, je vais juste à Lillooette, c'est la ville la plus proche. Ça va pas me prendre longtemps. Je suis partie en fin d'après-midi, grave erreur. Et je me suis retrouvée au milieu des montagnes, à la nuit tombée, je voyais rien. Et vraiment, j'étais toute seule sur la route. Et il faut savoir que dans l'ouest du Canada, il y a des grizzlies, il y a des cougars. J'étais terrorisée, j'étais persuadée que j'allais me faire manger. Et au final, en plus, je roulais et il y avait vraiment un ravin à côté de moi. Et j'avais mon gros Larry, c'est mon van, il s'appelait Larry, qui était genre vraiment au bord du truc et je me voyais mourir à chaque fois. En plus, je voyais rien. Enfin, c'était terrifiant. Au final, j'arrive dans l'Illouette et j'ai dormi à côté d'un cimetière. Je m'en suis rendu compte le lendemain matin, mais je me suis dit que j'allais être hantée pour le reste de mon voyage. J'étais franchement pas ravie d'avoir quitté Vancouver et la côte, la mer et le soleil. Parce que en plus, en Colombie-Britannique, il fait toujours beau. C'est l'endroit le plus ensoleillé du Canada. Et pendant que moi j'y étais, c'était en mars, donc les arbres étaient en fleurs, il y avait du soleil, on pouvait se balader en t-shirt, c'était le rêve. et je savais que plus j'allais aller vers la droite, plus il allait faire froid. Donc, j'étais pas franchement ravie. Mais quand même, j'ai continué. Et pendant 3 jours, j'étais dans les montagnes, en train de faire mon chemin jusqu'à la limite des Rocheuses. Et quand je me posais dans la nature, j'osais pas partir à plus de 10 mètres de mon van, parce que j'étais persuadée qu'il allait avoir un cougar ou un grizzly qui allait me sauter dessus. Donc du coup, j'étais terrorisée. Et je me disais, mais quelle idée à la con de partir toute seule quand même. Après 4 jours de route, j'ai atteint la deuxième grande ville de Colombie-Britannique, qui est Kamloops, en territoire chouchouap. Et je me suis dit que j'allais sortir Tinder. Parce que je m'ennuyais. Et du coup, j'ai eu un date avec cette personne, qui au final s'est avéré devenir un super ami, qui m'a présenté à son coloc. Et en fait, c'était son coloc, mais ils vivaient tous les deux dans un bus. Donc du coup, ils m'ont amené à 45 minutes de Kamloops dans leur bus. Et on a passé la soirée dans le bus à jouer aux cartes et à rigoler. Et vraiment, je me suis dit, ok, donc si ça peut m'arriver facilement, je pense que je peux survivre à ce voyage. Et du coup, je suis repartie le lendemain, pleine d'espoir et de joie. Et je me suis dit, ça y est, mon voyage y commence. J'ai continué à rouler pendant 2-3 jours, jusque dans les grosses rocheuses, vraiment la grosse chaîne de montagne, jusque dans le parc national de Banff, qui est un endroit absolument magnifique. C'est des montagnes, des lacs à perte de vue, enfin des canyons, enfin c'est vraiment un des endroits les plus beaux que j'ai jamais vus, Banff. Enfin, ce parc est juste à tomber. Et en fait, dans le parc national, il y a 3 villes. Il y a Banff, il y a Lake Louise, qui est le grand lac touristique du Canada, et il y a Jasper, qui est plus au nord, au milieu de plaines de glace. Et en fait, Banff, c'est une auberge de jeunesse géante. Il y a que des jeunes qui sont en PVT, en permis vacances-travail, qui sont là pour 1 an, 6 mois, enfin qui traversent le Canada. Et du coup, il y a plein d'internationaux, et c'est hyper, hyper fun, cette ville. Et je me suis posée direct, j'ai rencontré plein de gens chouettes. Je suis arrivée à Banff, je me suis posée dans le parc, et donc j'ai fait ma petite balade. Et là, je tombe sur un groupe de meufs qui étaient en train de faire de la slack. Et j'étais en mode, waouh, c'est vraiment trop cool. Du coup, je suis allée les voir, et il se trouvait que c'était un pote à elle qui les avait toutes ramenées pour les initier à la slack. Et du coup, je suis montée sur ce truc, je me suis cassée la gueule, c'était tragique. Mais j'ai trouvé ça tellement drôle que je me suis dit, il faut absolument que je m'achète une slack. Et du coup, le lendemain, je me suis acheté une slack. J'étais trop, trop contente. Et le lendemain, j'avais un date Tinder. Pendant mon voyage, j'ai fait que ça. Vraiment, pour rencontrer des gens, j'utilisais Tinder et Couchsurfing. Je sais pas comment les gens font sans leur smartphone pour rencontrer des gens. Parce que moi, je suis assez timide. Vraiment, chaque fois que j'allais quelque part, j'ouvrais Tinder, j'ouvrais le Couchsurfing Hangout et je rencontrais des gens comme ça. Et donc, à Banff, j'ai rencontré tout ce groupe de... Enfin, des hippies qui faisaient de la slack. C'était trop fun. En fait, leur but dans la vie à ces gens, c'est de trouver les meilleurs spots pour faire de la slack. Donc, ils sont basés à Banff, mais ils vont aller dans les montagnes et en foutre entre 2 arbres ou au-dessus d'une rivière ou entre 2 montagnes. Et vraiment, c'est leur but. Ils voyagent et ils cherchent leur spot pour faire de la slack. Et j'ai trouvé ça, mais trop fun, comme style de vie. Parce que quand ils réfléchissent, c'est quand même tout con de marcher sur une corde. Mais vraiment, il y a toute une culture autour de ça. Et ces gens, ils sont vraiment dans un esprit de liberté, de je m'en foutisme, de vraiment... Enfin, leur but dans la vie, c'est de s'amuser avec le moins de choses possible. Du coup, le lendemain où j'ai acheté ma slack... On est allé du coup avec mon ami l'essayer. Et il y a un des mecs qui m'avait initié la veille, qui est venu nous voir et qui était en mode, oh, mais trop drôle, trop contente que t'en aies acheté une et tout. On parle un peu. Et il me fait, mais les filles, vous savez quoi? Je suis allée derrière le supermarché et j'ai vu qu'ils avaient jeté une caisse de tarte aux pommes. Vous voulez pas qu'on aille en prendre une? Et moi, je suis en mode, pardon, c'est dégueulasse. Mais il me fait, mais non, mais tranquille, elles sont dans leur emballage. Viens, 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 je te montre. Et du coup, on s'infiltre dans le local poubelle du supermarché et il sort cette caisse pleine de tartes aux pommes à la cannelle. Il fait, mais regarde, elles sont toutes emballées, elles sont toutes belles, elles sont toutes bien. C'est du gâchis, c'est n'importe quoi. Je fais, ok, je vais essayer. Donc je prends ma tarte aux pommes. Et on s'est fait un petit déj tarte aux pommes poubelle. Et on était trop heureux. Et j'ai découvert du coup ce Sylvie du friganisme. Et ce mec m'a raconté que s'il pouvait dépenser le moins d'argent possible, il le faisait. Et qu'il faisait très rarement ses courses, que souvent il allait dans les poubelles. Enfin, il vit dans sa voiture, c'est même pas un van, il vit dans sa voiture. Il y a pas de place. Genre vraiment, je sais pas comment il dort dedans. Ce truc est plein à craquer de fringues, de matériel d'escalade, de slack. Il a un parachute dans sa voiture. Il vit vraiment pour s'amuser, quoi. Et d'ailleurs, j'ai eu des nouvelles de lui. Il est rentré à Montréal et il vit une vie sédentaire. Donc clairement, c'est pas durable comme s'il le vit, mais il l'a fait pendant une bonne année, je crois. Il était très heureux. Et du coup, je suis vraiment tombée amoureuse de Banff. Et après Banff, je suis montée vers le nord, à Jasper, où il y avait des plaines glacées. J'ai jamais vu autant de lacs gelés de ma vie. Je vois pas où j'aurais pu en voir autant, en fait, parce que c'est juste magnifique. Je suis passée d'un endroit tout vert à un endroit tout blanc, en fait, en vraiment juste 4 heures de route. Qu'est-ce qui faisait froid à Jasper? C'était une catastrophe. Mais j'ai survécu. Et j'ai fait une randonnée, du coup, sous la neige. Et là, je commençais un peu à m'engaillardir. Je m'étais acheté un bear spray, donc une bombe aux poivres géante pour les ours. Et j'étais allée faire une petite rando toute seule, dans un truc quand même assez peuplé, parce que j'étais quand même toujours très flippée. Et donc, je marche le long de mon canyon tout tranquillement. Et je me dis, ok, c'est cool, mais j'ai pas envie de rebrousser chemin, donc je vais faire une boucle. Donc, je suis montée sur la colline au sud du canyon. Je marche, mais littéralement 5 minutes. Et au détour d'un arbre, je vois une masse immense. Je suis tombée nez à nez avec un ours qui, fort heureusement pour ma vie, ne m'a pas vue. Mais du coup, je me suis figée et j'ai reculé tout lentement. Et après, j'ai fait demi-tour et j'ai dévalé la colline. Et à chaque personne que je voyais, je criais « Y a un ours, y a un ours, allez pas par là !» Les gens étaient en mode « Ok, super, merci, c'est gentil !» Parce que les ours, bien sûr, ils seraient pas allés là où il y avait plein de gens, parce que les ours aiment pas les êtres humains. Mais ça arrive qu'ils se trouvent sur les sentiers pas trop empruntés. Donc voilà. Après Jasper, j'ai quitté les Rocheuses. Et c'est hyper drôle parce que quand tu sors des Rocheuses, t'arrives dans les plaines. Et les plaines, c'est plat. Vraiment. Mais à perte de vue, en fait, il y a rien. Il y a 3 provinces dans les plaines. Il y a Alberta, Saskatchewan et Manitoba. Saskatchewan, ça s'appelle la terre du ciel ouvert, en fait. Parce qu'on voit que du ciel, en fait, quand t'es à Saskatchewan, tellement c'est plat. Et je sortais et je savais que j'avais quelques heures de route pour arriver à la ville la plus proche. J'étais à littéralement 2 heures de route de la ville, d'Edmonton, et je la voyais au loin, tellement il n'y avait rien. Je vais pas te cacher que les prairies, c'est pas passionnant, parce qu'il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment que du plat. J'ai retrouvé un ami à Edmonton avec qui j'ai convoyé jusque dans le sud de l'Alberta. C'était sympa, mais après, vraiment, c'était que du vide et c'était pas passionnant. En plus, il fait très froid, vu que le vent balaye les plaines. D'ailleurs, il y avait tellement de vent que quand j'étais dans le sud de l'Alberta, je voulais traverser le plus vite possible, en fait, parce que c'est pas passionnant comme endroit. Mais il s'est avéré qu'il y a une tempête de neige qui est arrivée. Et du coup, je me suis retrouvée coincée au milieu d'une tempête de neige. Parce que de la ville d'où j'étais partie, il n'y avait pas de vent. Enfin, tout allait bien. Mais au milieu de la route, on s'est retrouvés pris dans une tempête. Il y avait une vingtaine de voitures avec moi. On était tous collés les uns aux autres. Impossible d'avancer. Et du coup, on a fait demi-tour sur l'autre route. Mais tous les 2 mètres, il y avait une voiture qui se retrouvait coincé dans la neige. Et du coup, il fallait qu'on sorte, genre que 20 personnes sortent, poussent la voiture, repartent. Et après, il y avait une autre voiture qui se coinçait. Donc, on ressortait, on poussait, on repartait. On a fait ça, mais pendant une bonne heure. C'était trop comique. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'avec les Canadiens, tout se fait dans la bonne humeur. Donc, tout le monde se caillait les miches. Tout le monde en avait marre, mais tout le monde était content d'être là. Je me dis qu'en France, genre, on ferait que klaxonner. Et on sortirait même pas pour aider les gens à sortir de leur tas de neige. Fort heureusement, Larry ne s'est pas retrouvé coincé dans la neige. Du coup, j'ai passé 3 jours à Medicine Hat. C'était 3 jours de trop, parce que c'est un endroit très ennuyeux. Franchement, il n'y a pas grand-chose dans les prairies. Et donc, j'ai continué. Je pense que j'y ai passé 10 jours, parce que j'essayais... Vraiment, j'ai donné le bénéfice du doute à cet endroit. Je suis vraiment allée dans les parcs nationaux et tout. Et en fait, dans le Prairies National Park, dans le sud, à la frontière américaine, qui est le seul endroit qui a été préservé, en fait, j'ai appris qu'il y avait 90% du total des prairies dans tout le continent nord-américain qui avait été complètement dénaturé pendant la colonisation. Ça m'a fait quand même mal au cœur parce que c'était une biodiversité qui était hyper intéressante et franchement, c'est trop joli. Il y avait des fleurs de toutes les couleurs et tout, et maintenant il n'y a que des élevages et des fermes. J'ai quand même trouvé ça très triste. Après des jours et des jours de plats, je me suis retrouvée en Ontario. Et en Ontario, c'est assez drôle parce que... Mais vraiment, on dirait que les provinces, elles ont été coupées au couteau, quoi. Tu rentres dans les prairies, tu quittes les montagnes, t'arrives sur du plat, et tu en sors pour arriver en Ontario, et il y a un mur d'arbres qui t'attend. Et tu rentres en Ontario. En Ontario, c'est trop beau. Il y a des milliers de lacs, de petits lacs tout partout. Souvent, les gens qui traversent le Canada, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont passer en dessous par les États-Unis plutôt que par le dessus. Moi, j'étais en mode non, je m'en fous, je fais un trip canadien et puis même, de toute façon, j'ai pas de visa pour les États-Unis, donc je veux pas passer. Donc, je suis passée par le nord des lacs et en fait, j'ai compris pourquoi les gens faisaient ça parce qu'il n'y a rien. C'est très beau, en fait, mais il n'y a rien. C'est vraiment que des lacs et des forêts et... Enfin, pareil, il y a bien 2 heures de route entre chaque village. D'ailleurs, j'ai failli me retrouver en panne d'essence au milieu de 2 villages. Je me suis trouvée très bête. Genre, vraiment, il y a une pompe à essence qui est apparue, mais je faisais 2 kilomètres de plus. Et la rille était à plat, quoi. Et au milieu de nulle part, une catastrophe. Mais qu'est-ce que c'était beau. Donc au final, ça aurait pas été si terrible. J'aurais bien trouvé quelqu'un pour m'aider dans un endroit aussi joli. Mais j'aurais préféré que ça ne se passe pas, et ça ne s'est pas passé. Donc j'étais très heureuse. Et vraiment, après avoir passé ce petit moment de tout petit lac et de forêt, je suis arrivée dans les grands lacs. Et les grands lacs, c'est un truc de fou. On dirait la mer, en fait. On voit pas la fin du lac, et il y a des vagues. J'ai jamais vu ça sur un lac, j'ai trouvé ça génial. Mais vraiment, des vraies vagues. Et c'est trop beau. Enfin, des plages de galets, du bois flotté, c'est vraiment... Pff. En fait, tout au Canada est juste époustouflant. Il n'y a pas un endroit qui n'est pas particulier. En fait, tout est grand. Vraiment, l'impression que j'ai eue quand j'ai atterri, et partout où j'allais, c'est une impression de grandeur. Les plaines sont immenses, les lacs sont immenses, les montagnes sont immenses, les arbres sont immenses. En France, on a des tout petits arbres, et eux, ils ont des sapins qui font la taille d'un immeuble. En plus, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'étais vraiment en mode, je me sens rikiki, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, mais c'est ces maudits arbres qui me regarde comme si j'étais une fourmi. Dans l'Est, c'est la partie la plus peuplée du Canada, le Québec et l'Ontario. C'est là où il y a beaucoup de villes. Donc, j'ai passé beaucoup de temps en ville. J'ai passé pas mal de temps à Toronto, où d'ailleurs, c'était trop drôle. En fait, mon plan, c'était de vendre Larry à Toronto. Donc, d'avoir quelqu'un qui l'achèterait avant de faire le Nord-Ouest et de revenir. Donc en fait, j'avais posté un truc sur Facebook et une nana m'a envoyé un message direct en mode « Oh, j'aimerais trop le voir et tout ». Du coup, j'arrive à Toronto, je la rencontre, elle s'appelle Marie, elle est londonienne, elle est trop sympa. Et je lui fais faire un tour dans Larry. Je sais plus ce qu'on a dit exactement, mais on avait un truc en commun. Et elle m'a dit « Ok, donc maintenant on est meilleurs potes ». J'ai fait « Ok, super ». Et on a fini notre petit tour dans Larry. Et en fait, on a pris un verre et... Ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé les 3 jours qui ont suivi chez elle. Elle m'a invité à rester chez elle. Et c'est devenu une super amie. Donc j'étais très heureuse de lui donner l'arrêt. Après Toronto, du coup, je suis montée au Québec. Puis après, dans les Maritimes. Enfin, ils appellent ça les Maritimes. Donc c'est les 3 provinces du New Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard. Vraiment... Comparé au Québec et à l'Ontario, c'est tout petit, il n'y a rien. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de forêts. C'était un moment de mon voyage où je venais de passer beaucoup de temps avec des gens et où là, j'étais vraiment... Enfin, j'avais envie de profiter de la nature et tout. J'ai fait beaucoup de randonnées. J'ai fait le Fundy Trail, le Cabot Trail. Mais en fait, j'adorais faire des randos dans l'Est parce qu'il n'y a pas de grizzly dans l'Est et du coup, on peut pas se faire manger. Il n'y a que des coyotes, donc j'étais assez contente. Vraiment, je marchais partout, je me sentais plus. Mon dernier arrêt, avant de rebrousser chemin, c'était Halifax, une ville adorable avec un petit port, des jolis petits cafés, Là-bas, j'ai couchsurfé chez un mec qui s'appelait Eric. Chez Eric, il y avait une nana qui s'appelait Madeleine, qui est allemande. Madeleine et Eric, ils avaient une histoire pendant longtemps, mais maintenant c'était fini. Et moi, j'ai eu la bonne idée de flirter un peu avec Eric, ce qui a beaucoup énervé Madeleine. Et au final, Madeleine a menacé de partir, et Eric était pompier. Il avait un shift de 24 heures, donc il y avait toute une journée où j'étais toute seule avec Madeleine, et une journée et une nuit. Il m'a dit, est-ce que tu pourrais parler à Madeleine, s'il te plaît, parce que j'ai vraiment pas envie qu'elle fasse la gueule ou qu'elle s'en aille et tout. Je fais, bon, ok, je parle à Madeleine, enfin, je suis pas sa mère, je viens d'arriver, je comprends pas, mais je vais parler à Madeleine. Et elle me dit, non mais t'inquiète, je t'en veux pas à toi, c'est juste que j'ai des sentiments, enfin, que je peux pas m'empêcher de ressentir. On passe à autre chose. On est passé à autre chose, et en fait, il s'est avéré qu'on était super copines, et qu'on a commencé à boire du vin fait maison, parce que Eric, il fait tout chez lui. Il fait son propre vin, il fait son propre pain, il fait ses propres assiettes, ses propres tasses. C'est vraiment un personnage, ce mec. Et à un moment, on était assez alcoolisées, très heureuses. Et en fait, au plafond de la cuisine d'Eric, il y a une toile d'araignée faite en corde d'escalade. Et Eric, c'est vraiment un mec particulier. Enfin, dans sa cuisine, il y a cette toile d'araignée, il y a un piano. Son frigo, il l'a peint quand il était sous acide, donc il est toujours complètement fou, son frigo. Et on se retrouve sur la toile à regarder le plafond, et on se dit, ce serait pas trop bien s'il y avait pas le plafond et juste le ciel. Ce serait pas trop cool si on peignait un ciel étoilé au plafond. Et du coup, elle est courue chercher des pinceaux et de la peinture, et on a passé les 3 heures qui ont suivi à peindre des étoiles au plafond de la cuisine d'Eric. Mais vraiment, c'était la plus belle chose que j'ai jamais faite. Les gens ne me croient pas quand je leur dis, mais c'était vraiment trop trop beau. Par contre, Eric n'était pas très content le lendemain quand il est rentré. Mais il m'en a pas voulu longtemps. Parce que bon, c'est un peu dans son délire. Donc il a dit, il était juste jaloux qu'on ait fait ça sans lui. Mais du coup, quelques jours après, je devais repasser chercher Eric. En fait, je faisais le tour de la Nouvelle-Écosse. Et je repassais par Halifax pour prendre Eric. Et on allait jusqu'au Québec ensemble à un festival de Highline. Et enfin, vraiment, je comptais juste le déposer et pas y rester longtemps. Mais je suis quand même allée là-bas. Donc c'est dans un petit village qui s'appelle Kamouraska. C'est un lieu dont les propriétaires sont des anciens du Cirque du Soleil. Donc ils sont en train de construire un cirque là-bas à partir de containers. C'est un endroit magnifique. Et au fond de leur jardin, ils ont des espèces de petites collines, montagnes, sur lesquels ils ont accroché plein de highline, et tous les étés il y a un festival là-bas, et donc t'as plein de gens fans de slack, de highline, qui se retrouvent là-bas. Et moi j'avais fait de la, enfin ça faisait genre 2 mois que je faisais de la slack, dès que je pouvais je la posais entre 2 arbres, mais j'étais pas vraiment sûre de moi quant au fait de pouvoir marcher entre 2 montagnes, tu vois, surtout, enfin c'était à 15 mètres du vide, mais qu'est-ce que, enfin c'était un endroit magnifique. Et au final, quand même, j'ai porté mes ovaires, j'y suis allée, parce qu'il y avait des gens qui étaient là pour me coacher et tout. Et c'était un peu trop nul, parce que vraiment, genre, j'ai même pas marché, je me suis traînée dessus, jusqu'au milieu, et j'ai regardé, juste, enfin, il y a eu un moment où je me suis retrouvée pendue à 15 mètres du sol, genre je pouvais toucher la cime d'un arbre avec ma main. Et devant moi, il y avait le Saint-Laurent, juste le bruit de la nature, de l'air, des montagnes et tout. Et je me suis dit, le nombre d'étoiles qui ont dû s'aligner pour que je me retrouve ici maintenant, c'est quand même fou et c'est trop beau. Et j'ai eu un moment trop heureux. En fait, pour moi, mon voyage, il s'est fini à Kamouraska parce que après, je suis rentrée à Toronto, j'ai vendu la riz et après, j'ai passé une semaine à Montréal. Mais vraiment, mon voyage s'est fini là. C'était vraiment le point culminant parce que c'était juste tellement incongru et tellement beau que je pouvais pas faire mieux, en fait.
Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage en particulier ?
Parce que c'était mon premier long voyage solo et que je trouve que c'est celui qui m'a le plus marqué et dans lequel je me suis vraiment plus dépassée. J'ai fait des trucs jamais je les aurais cru possibles. Surtout que mon dernier long voyage, je l'avais fait en van, toujours avec mon ex. Mais on était dans cette inertie, en fait, de couple, où on sortait pas de notre zone de confort, on n'allait pas rencontrer des gens, on faisait pas des choses... Enfin, on n'allait pas trop randonner, on n'essayait pas des nouveaux trucs. Tandis que là, si je voulais pas m'ennuyer, il fallait que j'aille voir des gens, il fallait que je tente des nouveaux trucs, en fait. Et du coup, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, et je pense que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec vraiment l'ennui et juste les nouvelles expériences et la nouveauté.
Est-ce que tu peux nous parler de la philosophie van life en général ? Qu'est-ce que ça implique ?
La philosophie de la van life, c'est la liberté totale. En fait, c'est vraiment l'indépendance. Ce qui est beau avec le van, c'est que tu peux aller n'importe où, en fait. T'as besoin de personne, t'as besoin de rien. Si tu veux passer 3 jours dans la montagne, tu peux. Enfin, à condition que t'aies assez d'eau pour voir, mais enfin, que t'aies assez de provisions. Mais généralement, t'as assez de provisions. Donc, en fait, tu peux vraiment partir et juste faire absolument ce que tu veux. Et ce qui est bien aussi dans la van life, c'est que t'as une communauté. Généralement, les gens, ils sont toujours très sympas. Ils veulent toujours boire l'apéro. Ils veulent toujours aller faire des randos avec toi, si tu veux. Et voilà, il y a une super communauté et la liberté.
Bon, j'imagine qu'en 2 mois et demi, t'as pas forcément le temps de tout prévoir. Donc, quelle place tu laisses à l'improvisation quand tu voyages ?
J'avais absolument rien prévu. Vraiment, enfin, je te dis, quand je suis restée 3 semaines à Vancouver, c'est parce que je savais même pas où je voulais aller. C'est mon pote qui m'a dit « Faut que t'ailles à Banff, ça va être trop bien ». Donc en fait, c'était mon premier objectif et mon seul objectif, en fait. Je savais que je voulais aller à Montréal parce que Montréal, tout le monde m'a dit que c'était super. Vraiment, mais je suis très nulle pour prévoir les choses, donc je faisais vraiment les choses du jour au lendemain. Et je regardais sur Google Maps s'il y avait un endroit qui avait l'air sympa et puis j'y allais, quoi.
Tu parles beaucoup de rencontres... Voilà, les diverses rencontres que tu as pu faire au cours de ce voyage, qu'elles soient provoquées ou non. Je voulais savoir, toi, comment tu considères les rencontres en voyage et est-ce que tu as tendance à garder contact avec les gens que tu as rencontrés ?
Je trouve quand tu voyages, les rencontres, c'est plus facile. Parce que t'es pas dans ton quotidien, donc tout de suite, déjà, t'es plus intéressant pour les gens. Ils sont toujours ravis de parler à des étrangers. Les rencontres, elles font ton voyage. Tu peux voir des endroits magnifiques, tu peux faire des choses super cool, mais si tu les fais toute seule, c'est moins fort en fait, tandis que quand tu partages quelque chose avec les gens, tout de suite ça accorde une force à ton expérience.
Je voulais savoir, toi, comment tu documentes et comment tu racontes tes voyages ? Est-ce que c'est via, je sais pas, un réseau social, des photos, de la vidéo, un carnet de bord ? Et est-ce que t'as un médium préféré pour raconter ton voyage ?
Alors, j'ai un carnet de voyage qui va me faire, enfin, qui m'a fait tous mes voyages et qui fera les suivants jusqu'à ce que je le finisse, parce que c'est un gros, gros journal. Et j'essaye de noter au maximum, sans pour autant que ça devienne la mission. Mais j'adore garder une trace d'où je suis allée, de ce que j'ai fait. Et sinon, j'utilise un peu Instagram. Mais c'était vraiment pour me la péter quand j'étais dans des jolis endroits.
À part ton carnet de voyage, qu'est-ce qu'on va toujours trouver dans ton sac ?
Oula, c'est une bonne question. pas grand-chose. J'ai toujours un jeu de cartes. Parce que c'est super pratique pour socialiser.
Pour se parler de l'après, toi, une fois que tu rentres au pays ou que tu considères que ton voyage est terminé, est-ce que tu es atteinte de voilà, ce qu'on appelle le blues du voyageur, une espèce de spleen post-voyage ? Et si c'est le cas, comment tu le soignes ?
J'ai eu le pire blues de ma vie quand je suis rentrée. Parce que je suis à une période de ma vie en fait, où je finis mes études, il faut que je me mette à travailler. Et j'ai eu la bonne idée de rentrer en été, donc quand il n'y a pas de travail. Du coup, je me suis retrouvée vraiment perdue, quoi. Et après avoir vécu presque 3 mois de juste pur bonheur et de... Je m'en foutais, enfin, j'étais vraiment au jour le jour. Et là, je devais me retrouver à planifier ma vie. Ça m'a mis très mal pendant longtemps.
Bon, une des façons de se soigner, c'est de penser au futur voyage. Toi, quels sont tes projets ? Où est-ce que tu aimerais aller ?
J'ai très envie de retourner au Canada. Parce que j'ai vraiment tombé amoureuse de ce pays. Surtout sur la côte ouest. Mais j'ai aussi très envie de faire l'Amérique centrale. C'est un continent que je trouve passionnant. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. Et aussi, quand j'étais petite, je me suis promis de faire l'Islande à cheval.
Pourquoi à cheval ?
Un jour, quelqu'un m'a dit qu'on pouvait traverser l'Islande à cheval. Et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, un jour, je le ferai. Et c'est prévu.
Merci beaucoup, Eva.
Merci à toi.
Je tenais également à remercier Ashley pour l'enregistrement, Julie et l'ensemble de l'équipe Nouvelles Écoutes, puisque cet épisode a été enregistré dans leur studio. Merci beaucoup. Et voilà, c'était Bourlinguer. le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui. Une partie de moi, mon bonheur. C'est bourlingué.